Europe 1. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Nous avons quitté Richard Cœur de Lion alors qu'il s'apprêtait à quitter Messine en Sicile pour Chypre. Auparavant, il a interrogé l'ascète Joachim de Flore sur son destin en Terre Sainte. Seconde partie, libérer le tombeau du Christ. Richard Cœur de Lion a quitté Messine, en Sicile, pour Chypre. Avant de partir, au roi Tancrède qui lui a donné des bateaux, Richard, en retour, en gage de son amitié, a offert Excalibur, l'épée du roi Arthur. Un présent inestimable dont il a accepté sans regret de se défaire. Tout chrétien doit être capable de sacrifier ce qu'il a de plus précieux dans la juste croisade entreprise pour délivrer le tombeau du Christ. Chypre est la dernière escale avant la Terre Sainte. Richard s'en empare à la vitesse de l'éclair.
Alors que nous poursuivions notre pèlerinage, nous nous sommes détournés vers Chypre, où nous espérions trouver un refuge pour ceux d'entre nous qui avaient fait naufrage. Mais le tyran qui, sans respect pour Dieu et les hommes, avait usurpé le nom d'empereur, arriva avec une armée pour nous interdire l'accès au port. Il vola et dévalisa tout ce qu'il put de nos hommes qui étaient naufragés et emprisonna ceux qui mourraient de faim. Naturellement, ceci nous poussa à agir. Nous nous battîmes contre notre ennemi et, grâce à Dieu, nous fûmes rapidement victorieux. Battus et enchaînés, nous l'appréhendâmes avec sa fille unique.
Enchaîné. Le roi de Chypre l'est avec cruauté, mais non sans humour. Alors qu'il supplie Richard de l'épargner, arguant qu'un roi ne peut être entravé par des chaînes de fer, le roi d'Angleterre lui répond qu'il sera lié selon son rang, avec des chaînes d'argent. L'île est vendue aux Templiers, ces moines-soldats protecteurs des pèlerins en route pour Jérusalem, qui en feront leur quartier général pendant 4 siècles. C'est encore à Chypre que Richard, qui n'a jamais eu vraiment l'intention d'épouser Adèle, la sœur de Philippe Auguste, se marie avec la femme qu'il aime, Bérengère de Navarre. Pour justifier son refus d'épouser Adèle, il va finir par avouer au roi de France qu'il ne saurait épouser une femme qui a été violée par son défunt père, le roi Henri II d'Angleterre. Sidéré, Philippe Auguste ne peut rien opposer à cet argument. Le 8 juin 1191, Richard Cœur de Lion est en Terre Sainte devant la ville de Saint-Jean d'Acre. 80 ans auparavant, le frère de Godefroy de Bouillon, maître de la ville, avait converti la mosquée en une église dédiée à Saint-Jean. La ville que les Arabes appelaient Acre el-Karak, Acre la détruite, était alors devenue Saint-Jean d'Acre. Mais la ville est à présent occupée par les Sarrasins. Richard sait qu'il va bientôt devoir affronter celui dont le nom fait trembler toute la chrétienté, Salah el-Din, Saladin, chef suprême des armées mahométanes. Ce dernier a appris que les chrétiens ont débarqué en Palestine. Il prend donc position avec ses troupes sur les plateaux, en arrière de la ville. On s'installe pour un siège appelé à durer. Drôle de guerre que ces sièges médiévaux, où l'on s'échange des cadeaux entre deux tournois opposant des soldats ennemis. Cavaliers arabes affrontent chevaliers chrétiens, les vainqueurs étant donnés comme prise de guerre à l'ennemi. Richard offre à Saladin des chiens, des éperviers de chasse. En retour, pour le remercier, Saladin lui fait envoyer des sorbets glacés, des parfums, des lames damasquinées de la plus belle facture. Des lames damasquinées, ce sont des lames ciselées. Pourtant, jamais Richard Cœur de Lion ne va rencontrer Saladin. Le chef des Sarrasins n'est pas dupe de ces échanges faussement amicaux.
La guerre continue. À quoi bon resserrer les liens de l'amitié puisque le glaive des combats peut les rompre à chaque instant.
Puis vient le jour où les croisés se lancent à l'assaut des hautes murailles de la ville. Chez eux, comme chez l'ennemi, les prodiges précèdent le début des combats. Les Arabes, que les chrétiens qualifient indifféremment d'infidèles, de sarrasins ou de mahométans, affirment obéir aux légions d'anges descendus du ciel pour leur commander de défendre les assiégés. Les chevaliers français, eux, ont vu apparaître la Vierge Marie, qui leur a commandé de ne pas détruire les murailles d'une ville qui, elle le jure, leur sera soumise par décision divine. La ferveur des croisés, galvanisée par leur chef, a raison des sarrasins. Les combats sont sanglants, des milliers de cadavres croisés et infidèles jonchent la plaine qui entoure la ville.
Les morts gisaient au milieu des prairies, cadavres tuméfiés ou décharnés, d'où s'exhalait sous l'action du soleil une odeur infecte, et autour desquels vautours et chacals tournoyaient, hôtes de ce festin.
Le 12 juillet 1191, les Sarrasins capitulent. Saint Jean d'Acre est prise. L'armée des croisés fait son entrée dans un chaos indescriptible, soldats et prostituées entrant avec vacarme dans le cliquetis des armes et les aboiements des chiens qui courent en tous sens. Les conditions imposées à Saladin sont effrayantes. Richard veut la ville avec toutes ses richesses. La restitution de la vraie croix, ravie à la bataille de Tibériade par Saladin. C'est la croix sur laquelle le Christ a été crucifié. La libération de 2000 chrétiens et le versement d'une rançon colossale à verser à Richard et Philippe Auguste. En attendant l'exécution de ces conditions, les croisés garderont 2600 otages sarrasins. Richard donne à Saladin 40 jours pour obtempérer. Dans le camp musulman, c'est la consternation.
Tous étaient saisis d'épouvante, frappés de stupeur. Le camp retentissait de cris, de plaintes, de sanglots et de gémissements. Ce fut un spectacle odieux quand les croisés entrèrent avec 4 drapeaux de rois chrétiens, en plantèrent un sur la citadelle, un autre sur le minaret de la grande mosquée, et c'était le vendredi, un troisième sur la tour du combat à la place des drapeaux de l'islam.
La liesse des chrétiens est cependant ternie par la découverte des saccages perpétrés par les infidèles sur les édifices religieux édifiés près d'un siècle avant par les hommes de Godefroy de Bouillon. Peintures effacées, visages du Christ dont les yeux ont été crevés, autel renversé, croix brisée. Mais pour Richard Cœur de Lion, c'est tout de même une première victoire, une victoire qui présage ses succès futurs. Saint Jean d'Acre prise, il sait que son nom est d'ores et déjà inscrit en lettres d'or dans l'histoire de l'Occident chrétien. Philippe Auguste, qui est resté en retrait durant les combats, prend ombrage de la gloire de Richard. Il nourrit en outre de sérieuses inquiétudes sur ses possessions dans le royaume de France. Son royaume est alors une nation en devenir. Il est comptable de son destin. Et fin août, il décide donc de quitter la Terre Sainte, au grand soulagement d'ailleurs de Richard Cœur de Lion, auquel il était accroché, nous dit la chronique, comme un marteau à la queue d'un chien. Désormais, Richard a les mains libres. Le délai qu'il a imposé à Saladin a expiré. Nous sommes le 12 août 1191. En lui, le mystique pénitent va bientôt faire place à la bête fauve. Saladin ne lui donne que des réponses évasives. Où est la vraie croix promise? Où est la rançon? Richard accorde un petit délai supplémentaire. Il est de ces aventures dont le succès pousse leur protagoniste à l'excès. Richard se souvient de cette année où Saladin fit exécuter tous les prisonniers chrétiens. Eh bien, il prend la décision d'imiter son ennemi. Le 20 août, il rassemble les 2600 prisonniers musulmans sur la plaine qui s'étend devant Acre. Un par un, ils sont décapités. Certains, selon le caprice des croisés, seront littéralement découpés en morceaux. Saladin, apprenant le massacre, édite un commentateur arabe comme une lionne qui a perdu ses petits. Il tente une attaque sur les croisés qui se solde par un désastre. Après ce massacre, l'armée immense des croisés s'est mise en marche vers le sud, vers Jérusalem. Richard, fort de son succès, est plus que jamais maître de son jugement et comme habité par une vision grandiose. Il a décidé très habilement de longer la côte en se gardant d'entrer dans les terres. Il peut ainsi bénéficier de l'appui de ses vaisseaux qui suivent la colonne chrétienne et assurent facilement le ravitaillement et l'éventuelle évacuation des troupes en cas de coup dur. La marche des croisés est éprouvante. Il fait en ce mois d'août sans doute bien plus de 30 degrés. Les soldats progressent lentement, vêtus de leurs cottes de mailles et portant armes et boucliers. Ils doivent subir chaque jour les attaques surprises des Sarrasins qui surgissent à cheval, décochent leurs flèches et repartent aussitôt. Au fil des jours, les croisés ont pris l'habitude de se mettre en position de défense à la vitesse de l'éclair pour repousser les assaillants. Richard a ordonné son armée en 5 corps distincts. En tête marchent les Templiers. Bretons et Angevins constituent le second. Le troisième est formé des Poitevins, le quatrième par les Anglais, les Normands et les Allemands. Les Hospitaliers, chevaliers chargés de la défense des pèlerins, ferment la marche. Ils ont la difficile mission de progresser à reculons pour faire face à toute tentative d'agression par l'arrière. Si Templiers et Hospitaliers encadrent l'immense armée des croisés, c'est pour une raison simple. Ils connaissent parfaitement cette terre où ils vivent depuis longtemps. Ils connaissent l'ennemi et peuvent le repérer de très loin. Richard chevauche en tête de ses troupes. Il monte un cheval fauve pris à l'ennemi à Chypre.
Sa lourde armure ressemblait à celle des chevaliers de haut rang. Un casque d'acier emprisonnait ses beaux cheveux blonds. Sa cuirasse de même métal était recouverte d'une cotte de mailles à longues manches, descendant jusqu'à ses pieds, enfermé dans une chaussure de plaques flexibles. À sa gauche pendait une longue épée à deux tranchants.
12 jours de marche épuisante. Les croisés parcourent 80 kilomètres. On approche de Jaffa. Le 7 septembre, au sortir de la forêt d'Arzouf, Richard découvre, couvrant la plaine immense, l'armée de Saladin, disposé pour le combat. C'est là que va se révéler le génie tactique du roi d'Angleterre. Il ordonne à ses troupes de ne rien tenter avant que les Sarrasins ne montrent des signes de faiblesse. En première ligne, les fantassins essuient le premier choc. Les chevaliers, en arrière, fulminent. Quand devra-t-on attaquer ? N'y tenant plus, les chevaliers hospitaliers finissent par lancer leurs chevaux à tombeau ouvert. Leur charge est écrasante, les Sarrasins sont balayés. Saladin tente une réplique sans succès. L'ennemi abandonne le terrain, la victoire est totale. La route de Jérusalem est désormais ouverte. Saladin va échouer dans toutes ses tentatives pour arrêter l'avancée inexorable des croisés. Richard lui tente de négocier. Son armée donne des signes évidents de fatigue. Depuis la prise d'Acre, il a noué des liens d'amitié pour le moins inattendus avec le frère de Saladin. Il va même jusqu'à lui proposer en mariage Jeanne, sa propre sœur. Estomaquée, Jeanne entrera dans une rage folle en apprenant que son frère veut la donner à un infidèle. Cette proposition surprenante montre en tout cas que Richard veut en finir avec les combats. Au fil des mois, Saladin a réussi à rassembler une armée redoutable, bien supérieure en nombre à celle des croisés. Et puis Richard se dit qu'il est parti depuis maintenant plus d'un an et il a laissé les affaires de l'Angleterre à son frère Jean, le fameux Jean sans terre. Ce dernier lui a bien juré fidélité, mais Richard se fie à sa parole comme à celle d'un scorpion. Un accord est enfin trouvé avec Saladin le 1er septembre 1192. Le traité laisse un arrière-goût d'inachevé. Il ordonne une trêve de 3 ans durant laquelle les chrétiens conservent Saint-Jean d'Acre et quelques glorieuses places fortes comme Césarée et Haïfa. Un droit de libre passage est signé pour musulmans et chrétiens qui veulent circuler dans les territoires adverses. les pèlerins chrétiens auront librement accès à la ville sainte. C'est là une conquête essentielle. Richard, épuisé par les fièvres qui l'accablent depuis des mois, ne prend même pas la peine de lire le document. De fait, le 9 octobre 1192, laissant la Terre Sainte, il embarque pour l'Europe. Richard Cœur de Lion, héros de la Troisième Croisade, ne verra jamais Jérusalem. C'est la fin de ce double épisode consacré à Richard Cœur de Lion, héros de la Troisième Croisade. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au Cœur de l'Histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au Cœur de l'Histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est signée Xavier Joly. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À bientôt !